Bonjour. Alors, je vais faire un essai aujourd'hui. Un jour, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il était bien dommage d'utiliser un transparent, que ce n'était pas très écologique, dont on ne se servait qu'une fois pour indiquer le plan d'une prédication. Alors, j'ai trouvé une plaque de plexiglas chez moi, j'ai écrit dessus à la main. Comme ça, je pourrais la nettoyer, elle sera réutilisable. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. Ouais, ça va. C'est du plus humain. Hein. Alors, j'aimerais parler avec vous des béatitudes. Les béatitudes, c'est un texte très connu des évangiles. Et on appelle béatitude des déclarations qui disent que telle ou telle personne est heureuse. Beaucoup de personnes connaissent ce texte, même dans ceux qui ne partagent pas notre foi. Au moins, ils le connaissent partiellement et le plus souvent avec pas mal de contresens sur sa signification. Heureux les pauvres en esprit, par exemple. Jésus a délivré ce message tout au début de son ministère, dans ce grand rendez-vous qu'on a appelé le Sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas décortiquer le texte avec vous, mais plutôt voir l'ensemble. Et peut-être, si Dieu nous prête vie et que Jésus ne revient pas tout de suite, on verra pour une prochaine fois les béatitudes, une fois les unes après les autres. Alors, j'aimerais vous les lire dans un français très courant. Heureux ceux qui sont pleins d'eux-mêmes, car le monde leur appartient. Heureux ceux qui ne s'en font pas à propos du péché, car ils peuvent bien s'amuser. Elle vous étonne, ma version ? Heureux les violents, les agressifs, car ils obtiennent ce qu'ils veulent. Heureux ceux qui aiment l'injustice, car ils seront vraiment rassasiés. Heureux ceux qui ne pardonnent jamais, car ils sont sûrs de ne pas se faire avoir. Heureux ceux qui ont le cœur impur, car Dieu disparaît pour eux du tableau. Heureux ceux qui excitent les querelles, car ils divisent pour mieux régner. Heureux ceux qui font applaudir leur injustice, car le monde leur appartient. Que pensez-vous de cette version ? L'évangile selon TF1 ou selon Canal-? C'est ce que notre monde pense le plus souvent. Pour se faire une place au soleil, tous les moyens sont bons. Si on veut s'affirmer, se réaliser, il faut d'abord penser à toi, à soi, et se libérer de toute contrainte. Mais la sagesse de notre Seigneur est différente, et je vous invite à la lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Évangile de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 3. C'est Jésus qui parle et qu'il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. La lecture successive de ces deux textes fait apparaître les différences. Le contraste nous fait saisir ce qui est le premier sens de ce texte, l'opposition entre la sagesse de Dieu et la sagesse de notre monde. J'aimerais voir un peu la structure de l'ensemble avec vous. On a affaire manifestement à un texte très travaillé, avec la répétition du mot « heureux, heureux, heureux ». Jésus ainsi martèle sa pensée et il la fait rentrer dans les consciences et dans les cœurs. On compte 8 béatitudes plus une. Vous me direz, pour Jean-Pierre, pourquoi tu n'as pas mis 9 ? 8 plus une. Pourquoi j'ai dit 8 plus une ? À cause de la dernière, oui. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Si, elle a heureux. Elle est au futur, oui. Pardon ? Mais c'est surtout la différence, c'est que c'est la personne. Elle s'adresse à nous. Elle s'adresse, heureux serez-vous. Alors que les 8 premières, c'est heureux ceux qui, et la 9e, c'est heureux serez-vous. Et nous verrons un petit peu ce qu'on en tire de cela. Si nous prenons les 8 premières, nous voyons que la première et la 8e, la première et la dernière des 8, se terminent de la même façon, car le royaume des cieux est à eux. On est devant un procédé littéraire qui était très utilisé à l'époque, qu'on appelle une inclusion, et qui renforce l'idée que les différentes phrases forment une unité. Vous avez une annonce au départ, vous avez une conclusion à la fin qui reprend l'annonce. C'est pour nous dire que tout ça, ça forme un bloc. Alors bien sûr, il y a un intérêt à étudier chaque béatitude, ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais il ne faut pas perdre de vue que l'ensemble a une signification en lui-même. C'est cela que je vous invite à étudier aujourd'hui. Et ça suggère aussi que la première phrase est une sorte de titre qui annonce tout le reste. Cela nous fait comprendre que Jésus ne parle pas de 8 catégories différentes, mais d'une seule catégorie de gens qui ont tous ces points en commun. Qu'est-ce que c'est que les pauvres en esprit, qui est une phrase un peu énigmatique, on ne va pas la décortiquer aujourd'hui, peut-être une autre fois. Mais les pauvres en esprit, ce sont aussi ceux qui pleurent. Littéralement, ceux qui mènent deuil. On peut se poser la question, pourquoi mener deuil ? Je pense que nous pouvons mener deuil, et les personnes à qui Jésus s'adressait, c'était certainement des personnes qui menaient deuil sur l'état spirituel de leur peuple, de leur famille, peut-être d'eux-mêmes aussi. Ce sont ceux qui pleurent, ce sont aussi ceux qui sont doux, les humbles, ceux qui ont soif d'un monde plus juste, ou peut-être même la meilleure compréhension, ceux qui ont soif d'être eux-mêmes plus justes. Ce sont ceux qui sont miséricordieux. C'est un joli mot, miséricordieux. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est celui qui a un cœur pour les miséreux. Être miséricordieux. C'est ceux qui ont le cœur pur, sans partage. Ceux qui cherchent la paix entre les hommes. Et finalement, en récompense de tout ça, ceux qui sont persécutés parce qu'ils sont justes ou parce qu'ils cherchent à l'être. Et ce groupe de personnes qui sont rejetées par les standards habituels des hommes, Dieu leur accorde son royaume. Et qu'est-ce que c'est que son royaume ? Le royaume des cieux est à eux, c'est aussi d'être consolés, d'hériter de la terre, d'être rassasiés enfin de la justice, d'obtenir la miséricorde et le pardon de Dieu, de voir Dieu et d'être appelés ses fils et ses filles. Voilà ce que c'est que la récompense. Qui sera grande dans les cieux ? C'est pour ça que je vous ai mis 8 égale 1. Hein. Ce n'est pas que je sois très très mauvais en mathématiques. Alors, ce texte nous annonce la révolution de Dieu, la révolution de Jésus, et nous parle de royaume de Dieu. Pourquoi révolution ? Parce qu'il y a une opposition radicale entre le système de pensée du monde ambiant et les pensées de Dieu. On voit que les deux systèmes sont incompatibles. C'est ce que dira aussi Jacques au chapitre 4, où il dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4, verset 4. Si on aime la façon de vivre de notre monde, on ne peut pas être heureux comme Dieu le veut, comme Dieu le définit. Et cette révolution, c'est l'annonce d'un nouveau royaume que fait Jésus, un autre gouvernement. Le royaume de Dieu arrive. Il est là, il est à la porte. C'est l'essence même de l'évangile. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Marc 1, verset 15, annonçait « Le temps est accompli, le royaume des dieux est de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » L'annonce de cette bonne nouvelle, c'est que le royaume est là. Il renverse les hiérarchies accablantes et injustes de notre monde. Il déclare heureux ce que notre monde appelle malheureux. Alors, juste un petit point de vocabulaire. On parle de royaume de Dieu alors que notre texte parle du royaume des cieux. Quelle est la différence ? Je vous écoute. Il n'y en a pas ? Il n'y en a pas ? Je pense que c'est une question de vocabulaire. Matthieu, qui écrit ce sermon sur la montagne et qui le transcrit parce qu'il l'écrit en grec, alors que Jésus l'a très probablement prononcé en araméen, Matthieu, il est resté très juif. Et vous savez, pour un juif, c'est difficile de prononcer le nom de Dieu. Il y a toujours un petit frein quand même quelque part, on dira un frein culturel. Alors on emploie des tournures de phrases et on voit très bien que quand on comparait des textes de Matthieu et de Luc, Luc dit le royaume de Dieu et Matthieu dit le royaume des cieux. C'est sa façon à lui de parler à cet homme. Et comme il est très sympathique, on le pardonne. Mais le royaume de Dieu, ou des cieux, comme vous voulez, il est arrivé ou il n'est pas arrivé ? Il est là ou il n'est pas là ? Dans Luc, justement, au chapitre 17, au verset 20, on a cette petite anecdote où les pharisiens interrogent Jésus pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu. Et Jésus leur répondit, donc Luc 17, verset 20, « Luc leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, « Voyez, il est là » ou « Il est ici » car « Voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » On peut aussi traduire « est au milieu de vous. » Donc il est là. Et pourtant, dans la prière de Notre Père, que Jésus apprend à ses disciples, on dit que ton règne vienne. Donc il n'est pas là. Alors il est là ou il n'est pas là ? Il est là. Qu'est-ce que c'est que le règne ? C'est la présence du roi. C'est la présence de Christ. Ces deux réalités sont liés à la présence de Christ. Au fond, le règne, le royaume, c'est le même mot, hein, règne ou royaume. Hein, c'est le règne de Christ. Et lorsque Jésus était sur la terre, le royaume est là, puisque le roi est là. Et puis quand il repart sans avoir établi de règne visible. Et il repart, et pourtant il dit à ses disciples, « Je suis avec vous tous les jours, au moment de l'ascension. » Matthieu chapitre 28. Par le Saint-Esprit, le royaume qui est dans le cœur des croyants, de ceux qui se reconnaissent, qui reconnaissent Jésus comme leur roi, comme leur Seigneur. Dans ce sens-là, le royaume est là. Il n'est pas visible, comme le dit Jésus aux pharisiens, mais pourtant il est en nous ou au milieu de nous. Et puis, il y aura un jour une deuxième étape, le jour où Jésus reviendra, lors de son retour pour régner éternellement, alors le royaume sera visible à tous les regards, en pleine gloire. Et comme le dit Habacuc, au chapitre 2, toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Donc le royaume, il est à la fois là, déjà, depuis la première venue du Seigneur, mais il n'est pas encore établi dans sa gloire. Mais même s'il n'est pas déjà là, il se manifeste. Il s'est déjà beaucoup manifesté lors de la présence physique de Jésus, au moment où il était là avec toutes les guérisons, les libérations de démons, les manifestations de sa gloire, de sa puissance de la part du Seigneur. Mais maintenant encore, chaque fois qu'un cœur se tourne vers le Seigneur, c'est le royaume de Christ, le royaume de Dieu qui se manifeste avec puissance. Avec puissance, mais discrètement. Et qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14 et au verset 17, Paul le définit ainsi. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ni le boire. Il parle comme ça parce qu'il vient de raisonner sur ce qu'on peut manger en tant que chrétien. Est-ce qu'il y a des aliments interdits comme il pouvait l'être aux Juifs? Donc il conclut en disant, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est ce dont les chrétiens, les croyants, peuvent déjà bénéficier lorsqu'ils sont des sujets du roi. Ce royaume, il est l'objet de foi et non pas de vue, et il est établi par la présence et la puissance du Saint-Esprit, mais il reste caché dans les cœurs. Malheureusement, même pour nous qui avons reçu le royaume, nous ne marchons peut-être pas toujours en citoyens de ce royaume, en sujets de ce royaume. Nous faisons, nous pensons des choses qui nous attristent et qui attristent notre Seigneur. Et nous avons besoin de réentendre les paroles de Jésus qui nous redéfinit ce qu'est le royaume, qui nous recadre. Et les béatitudes, là, ont toute leur place. Elles sont la définition de la grande révolution divine du royaume. Alors, heureux. Heureux. Il faut souligner l'audace de Jésus qui ose proclamer la possibilité du bonheur. Heureux, c'est un terme, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je lis ce sermon sur la montagne, c'est un terme qui me donne un certain malaise. Parce que quand on dit « heureux ceux qui pleurent », on se demande si on ne se moque pas des gens là, quelque part. Encore faut-il comprendre exactement le mot « heureux ». Ce n'est pas de l'ironie ou de la méchanceté de la part de notre Seigneur, parce que lorsqu'on pleure, on ne se sent pas heureux. Et le terme « heureux » ici ne désigne pas un sentiment de bonheur que pourraient percevoir les intéressés. « Ah chic, qu'est-ce que je suis heureux, je pleure !» Non, cela désigne plutôt leur situation réelle. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils pleurent, ils sont heureux parce que Dieu va les consoler. Ils ne sont pas heureux parce qu'ils se sentent heureux, mais ils sont heureux parce qu'ils sont du bon côté, parce qu'ils sont bénis par Dieu. Et c'est justement ce que Jésus est en train d'expliquer. Dans toute l'Écriture, ce terme « heureux » revient, et il est toujours employé ainsi. On pourrait plutôt le traduire « approuvé par Dieu, béni par le Père ». Évidemment, lorsqu'on se sait du bon côté, lorsqu'on se sait béni par Dieu, on peut en déduire qu'on peut se réjouir d'être du bon côté, même si on est dans la peine. Et c'est sans doute ce que notre texte appelle « être consolé ». Alors, promettre le bonheur. Jésus affirme le bonheur alors que beaucoup de sages de notre monde ont démontré que le bonheur n'était qu'une illusion. Que la poursuite du bonheur n'était qu'une illusion. Même les sages bibliques ont parfois eu cette impression. Je vous lis Ecclésiaste chapitre 2, verset 1, qui dit « J'ai dit en mon cœur, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Mais même cela n'est que vanité. » Jésus s'inscrit en faux contre cette impression et redit « Même si les hommes vous jugent malheureux, s'ils pensent que vous êtes des perdants, s'ils pensent que vous êtes des losers, Dieu peut vous juger heureux, dans la bonne situation, dans la bénédiction. » Nous avons vu par contraste tout à l'heure ce que peuvent être les béatitudes selon le monde qui nous entoure, avec son culte de l'argent, du pouvoir, de la réussite, avec les ambitions personnelles qui aboutissent au malheur. Combien d'êtres humains font leur malheur à vouloir être heureux, à chercher à être heureux, en n'étant jamais heureux dans la situation qu'ils ont et en cherchant toujours plus loin, une quête sans cesse. Il y a aussi une autre solution que propose quelqu'un d'autre. Vous connaissez Gautama ? Non, vous ne connaissez pas Gautama ? Je vous lis ce qu'il a écrit, je pense que vous reconnaîtrez. La naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur. L'alliance avec ceux qu'on n'aime pas est douleur, la séparation d'avec ceux qu'on aime est douleur, ne pas obtenir ce qu'on a désiré est douleur. Peut-être l'avez-vous reconnu, Gautama, c'est le Bouddha. C'est le Bouddha qui s'exprime ainsi, qui exprime ainsi ce qu'il appelle la noble vérité dans son sermon de Bénarès. Il en déduit donc que pour ne pas souffrir, il faut éviter de désirer, de s'attacher. Il faut renoncer à vouloir quoi que ce soit. Le bouddhisme authentique n'est pas une religion de l'amour. C'est au contraire le renoncement à l'amour, le renoncement à tout attachement, le renoncement à la haine aussi d'ailleurs, car tout n'est qu'illusion. Il faut s'abstraire du monde présent qui n'est qu'illusion et douleur pour se diluer dans le néant qu'on appelle le nirvana, une dissolution dans une quiétude bienheureuse où toute volonté personnelle a été oubliée. Vous voyez qu'on est très loin de ce que Jésus proclame. Jésus qui ose dire heureux. Il y a des possibilités d'être heureux, même si votre monde vous juge malheureux. Et qu'est-ce qui permet à Jésus de promettre le bonheur ? Deux choses, je crois, lui permettent de promettre le bonheur. D'abord parce que Dieu est heureux. Vous saviez que Dieu est heureux ? C'est un des attributs de Dieu. C'est Paul qui dit cela dans la première épître à Timothée. Il y a deux occurrences dans cette première épître à Timothée où il nous parle du Dieu bienheureux. Et Dieu est heureux, il sait ce que c'est que le bonheur et il a des projets de bonheur pour les hommes. Jérémie 29, 11 dit « Moi, le Seigneur, je sais quels projets je forme pour vous et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur. » Mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Et puis Paul aussi, qui nous dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, et au verset 13, excusez-moi, mais comme je vois qu'il y a des personnes qui notent, je donne les références. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie. Et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riche d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Jésus promet le bonheur parce qu'il sait que Dieu souhaite le bonheur. Mais qu'est-ce qui permet à Jésus de promettre le bonheur malgré les difficultés ou dans les difficultés, difficultés liées à la fidélité à Dieu. Mais c'est parce que Jésus sait très bien que c'est son chemin à lui. Et que lui se trouve dans cette situation et va se trouver dans cette situation. Il ne nous envoie pas à la bataille en restant en arrière. Il a lui-même vécu les situations dont il parle. Heureux les pauvres. Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Notre Seigneur est né sur la paille, lui qui venait du ciel. Il a pleuré sur les péchés des hommes, sur leurs conséquences. Il a pleuré sur Lazare. Il a pleuré sur la Jérusalem. Il a dit de lui-même, « Venez à moi, car je suis doux et humble de cœur. » Matthieu 11, verset 29. Il avait faim et soif de justice. C'est quoi la justice? C'est de faire la volonté de Dieu. Vous rappelez ce passage où Jésus est assis au bord d'un puits, rencontre la Samaritaine, les disciples sont allés à la ville acheter des vivres, et il demande à la Samaritaine, « Donne-moi à boire. » Et quand ils reviennent avec les vivres, les disciples sont tout étonnés de voir qu'il n'a pas faim. Et il leur répond, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Il a été le compatissant par excellence. Celui qui souffre avec, il est venu partager nos peines et notre vie. Il est aussi celui qui a le cœur pur. Il n'a pas peur de dire aux gens autour de lui, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Il est notre paix, le réconciliateur par excellence. Éphésiens 2, verset 14. « Et puis si quelqu'un a été persécuté pour la justice, c'est bien lui. » Alors voilà pourquoi notre Seigneur peut nous dire que même dans des situations qui peuvent paraître difficiles, nous sommes heureux, parce qu'il les a partagées, parce qu'il a été celui qui a montré la voie, et aussi parce qu'il connaît la volonté de son Père de nous faire partager son bonheur. Alors, la neuvième béatitude, on a surtout parlé des huit premières jusqu'à maintenant. On passe à la deuxième personne. Heureux êtes-vous si. Ou lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on répondra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. L'application à nous. C'est toujours assez simple de faire une étude de texte en disant « Jésus dit ça, voilà, ça tient debout, c'est comme ci, c'est comme ça. » C'est toujours un petit peu plus compliqué quand il s'agit de le prendre pour nous. L'Écriture est vraie en elle-même, mais elle doit être vraie pour nous et appliquée à nous. Il faut nous en inspirer pour notre vie. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit d'accepter la persécution. Même en sachant qu'elle signifie que nous sommes heureux, du bon côté, bénis par Dieu. Oui, d'accord, d'accord, mais persécutés. Accepter la persécution, parfois elle est vite là. Elle est dans le dédain de nos concitoyens, dans l'incompréhension de notre famille. C'est rejoindre, nous dit Jésus, la grande famille des persécutés, des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, des prophètes qui ont jalonné l'histoire. C'est ce que nous dit Jésus dans cette neuvième béatitude. Dans le livre des Actes, au chapitre 5 et au verset 41, on est tout au début de la vie de l'Église. Et il y a cette petite phrase qui nous dit que les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux, de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Est-ce que nous sommes tout joyeux d'être trouvés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus ? Saurions-nous accepter, comme beaucoup de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui dans le monde, saurions-nous accepter d'aller jusqu'à donner notre vie pour Jésus? Apocalypse chapitre 14, verset 13 dit ceci: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Sans doute, ici et maintenant, dans notre France d'aujourd'hui, nous n'avons pas à aller jusqu'à la mort. Ce n'est probablement pas ce que le Seigneur nous commande. Il nous commande de ne pas craindre la persécution, la petite persécution. Et Jésus nous rappelle en Matthieu 25 que celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. J'aimerais terminer par cette phrase que Jésus a dit à ses disciples en Jean 13. Vous savez, c'est le moment où il lavait les pieds de ses disciples. Et il termine ce passage en disant: heureux êtes-vous, encore une béatitude, heureux êtes-vous, si vous savez ces choses et si vous les pratiquez. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, face à ce texte, nous ne pouvons pas rester insensibles. Nous te remercions parce que tu as voulu nous apprendre que nous pouvons être heureux, que nous sommes heureux, que nous sommes bénis, que nous sommes approuvés par toi, alors même que nous sommes dans une situation qui ne plaît pas ou qui est considérée comme un échec aux yeux de notre monde. Lorsque nous sommes fidèles à toi. Nous te remercions parce que tu nous l'as appris, mais nous voulons surtout te demander ton secours, pour que ça ne soit pas simplement un savoir que nous avons, mais que ça soit quelque chose qui nous inspire dans notre vie de tous les jours. D'oser nous affirmer comme étant citoyens de ton royaume, d'oser nous affirmer comme étant tristes de l'état de notre monde, d'oser nous affirmer comme étant doux, comme laissant les querelles des autres à propos de nos droits, d'oser nous affirmer comme étant ceux qui recherchent la paix, d'oser nous affirmer, Seigneur, comme ceux qui portent ta bonne nouvelle et qui la vivent, même si cela nous attire moquerie, insulte, persécution. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner par ton esprit la puissance qui vient de toi, pour que nous soyons comme toi, celui qui peut marcher, peut affronter tout cela et le faire en obéissance au Père. Et merci parce que dans tout cela, tu nous dis heureux.